Louise Cornaz, un portrait de Greuze. Monsieur Claude était un homme heureux. Après avoir été longtemps victime de l'ennui, du désœuvrement, il avait trouvé sa voie le long de laquelle il cheminait à cheval sur un dada qui, sans secousse et sans fatigue, le conduisait à la rencontre de la vieillesse. Resté très jeune à la tête d'une grande fortune, sans un lien dans la vie, sans un goût prononcé qui le poussa d'un côté plus que de l'autre, il avait réussi à gaspiller ses plus belles années tout en conservant son capital intact. Il est vrai que ses revenus suffisaient à faire les frais de nombreuses fredaines, mais comme à sa place d'autres n'eussent pas manqué de se ruiner, il n'est que juste de relever une pareille modération. Le jour où il devint majeur, il se rendit chez son banquier, se fit donner une lettre de crédit pour ses principaux confrères de France et de Navarre, et partit sans trop savoir où il s'arrêterait. Ses voyages durèrent plusieurs années. Il courut l'Europe un peu à l'aventure, après quoi il se fixa à Paris. Il s'y amusa 3 ans durant, puis un beau jour, blasé sur le plaisir, il voulut goûter aux fruits de l'arbre de la renommée et se jeta dans la littérature. Ses essais furent malheureux, autant que variés. Les journaux politiques auxquels il offrit sa collaboration la refusèrent les uns après les autres. Ses articles ne manquaient pas de valeur, seulement il ne savait pas habiller ses convictions aux couleurs des rédactions auxquelles il s'adressait. Il écrivait ensuite des romans qui furent impitoyablement malmenés par la critique. Il se tourna enfin vers le théâtre, mais sans réussir jamais à mettre la main sur un directeur qui consentit à lire ses drames. Éclairé sur la valeur d'une vocation qui lui coûtait beaucoup d'argent et ne lui donnait pas la gloire en échange, il jeta sa plume aux orties, reprit son bâton de voyage et secoua la poussière de ses souliers contre la grande ville qui n'avait su ni l'apprécier ni le comprendre. L'Orient le tentait. Il alla en Orient. Mais là aussi un désappointement l'attendait. En face des pyramides, se détachant sombres et nettes sur le grand embrasement d'un coucher de soleil égyptien, sous les palmiers de Memphis, devant la statue de Mémon, un regret s'empara de lui. Ces paysages aux grandes lignes, ces éclatantes symphonies de couleurs, réveillaient en lui des sentiments artistiques et, tristement, il se persuadait qu'il serait devenu un grand peintre, s'il eût compris à temps que c'était là sa vocation. Mais il était trop tard, le temps des longues études était passé pour M. Claude. Ne pouvant se vouer à la peinture, il s'occupa d'histoire, fit des recherches sur le pharaon sous lequel Joseph avait vécu et se rendit en Palestine en suivant la route parcourue un jour par les Israélites. Constantinople, Athènes le retinrent longtemps. Enfin, là des voyages, il revint se fixer dans la ville de province où il possédait une antique demeure du meilleur style et s'appliqua à se créer une occupation, un intérêt dans la vie ou tout simplement un moyen de tuer le temps. Il hanta les clubs et pratiqua la politique qui l'écœura bien vite. Il posa sa candidature au premier siège vacant, dans la députation de son département, ne réunit qu'un nombre de voix dérisoire et jura de ne plus s'exposer à l'aveugle idiotisme du suffrage universel. Le sport succéda à la politique. M. Claude eut des chevaux. Il fit courir et ne récolta, là encore, qu'ennuis et déboires. Les maquignons le trompèrent. Ses chevaux arrivèrent derniers dans plusieurs courses successives. Il perdit de grosses sommes, et comme cette coûteuse fantaisie ne le divertissait pas le moins du monde, il y renonça au bout de peu de temps. Trompé par toutes les choses dans lesquelles il n'avait cherché que son propre agrément, il pensa au bien de ses semblables et s'occupa d'œuvres d'utilité publique. Il songea à fonder une société de tramway, à doter sa ville natale d'une eau de source amenée de fort loin, à travers monts et veaux. Ses compatriotes ne voulurent pas croire à l'excellence de ses projets. Les traitèrent de folie et refusèrent de s'y associer. Blessé au vif, il se désintéressa de la chose publique et, se retirant sous sa tente, il s'isola de plus en plus. Parfois, dans les premiers mois qui suivirent son retour dans la grande maison aux sombres boiseries sculptées, M. Claude avait songé au mariage. Les encouragements ne lui manquaient pas. Peu de jeunes filles, encore moins de jeunes veuves, d'un bout à l'autre du département, eussent dédaigné son alliance. Quant au père et aux mères, ils proclamaient tout haut ses avantages et ses vertus. Il était riche, bien né, On ne lui connaissait pas de vice, de plus il avait grand air. Ses cheveux grisonnants donnaient du charme à sa physionomie fine et aristocratique, où donc aurait-on pu trouver un parti plus désirable. Malgré tout cela, il tardait à se décider. Il eût voulu être aimé pour lui-même, et comme il ne croyait pas au désintéressement des femmes, dont il avait très mauvaise opinion, il n'en trouvait pas une qui lui parût capable de s'attacher à lui plutôt qu'à sa fortune. Du reste, aucune des beautés que l'on faisait parader devant lui n'eut jamais l'heur de lui plaire. L'une était brune, il n'attachait de bric qu'au blond vénitien. L'autre possédait une splendide chevelure de cette teinte aussi rare qu'ardente, mais son profil peu classique déparait ses tresses, pareilles à de l'or en fusion. L'une était trop grande, l'autre trop petite, trop jeune, trop vieille, trop laide ou trop belle. Tout échouèrent dans le désir de capter M. Claude et ne parvinrent qu'à lui inspirer l'horreur du mariage et un mépris toujours plus grand pour les femmes. Quand M. Claude trouva enfin un emploi pour ses facultés, il frisait la cinquantaine. La grande lacune de sa vie se trouva soudain comblée. Une passion s'empara de lui qui désormais devait remplir sa vie, à laquelle une conviction profonde, un but arrêté, avait manqué jusqu'alors. Un jour qu'il se promenait, uniquement pour prendre l'air, dans une rue peu fréquentée, il s'arrêta, sans trop savoir pourquoi, devant la vitrine d'un marchand de bric-à-brac et se mit à considérer d'un air distrait les objets étalés pêle-mêle sur une table placée à l'entrée de la boutique. Avisant au milieu d'un dédale de vieux bouquins, de gravures jaunies, de vases ébréchés, un éventail en ivoire peint, très écaillé, il étendit la main et l'ouvrit pour examiner la peinture. La trouvant médiocre, il allait refermer l'éventail et le reposer sur la table, quand le marchand, qui l'observait depuis un moment, se glissa près de lui. C'était un vieux juif à la peau tannée, au grand nez recourbé, aux petits yeux perçants. Il salua M. Claude avec une politesse obséquieuse, et souriant d'un air fin, il s'écria de la voix au timbre fêlé « Ah, monsieur est un connaisseur. Quelle belle pièce, n'est-ce pas ?»«
La peinture ne vaut pas grand-chose, » dit M. Claude sans aucun enthousiasme.
« Ah, la peinture peut-être, mais monsieur a vu tout de suite ce qui fait le prix de cet éventail. Une pièce unique, si je l'ai mise là, c'est par mégarde. Elle devait être parmi les objets de prix que je n'expose pas ici. » Il faut que j'aie eu le pressentiment que monsieur passerait du vernis Martin, monsieur. Et puis, le chiffre, vous l'avez tout de suite remarqué, j'ai vu cela, moi. Ah, monsieur, vous avez le flair. »
Très désireux de mériter ce compliment inattendu, et craignant de se compromettre en émettant une opinion, monsieur Claude se contenta de sourire d'un air fin. Il approcha l'éventail tout près de son pince-nez et passa le doigt sur un petit quelque chose assez vague, taches ou dessins à demi effacés qui se détachaient en teinte sale sur l'un des montants d'ivoire.
« Ah, je savais bien que monsieur l'avait remarqué tout de suite. Très reconnaissable, n'est-ce pas ?»«
Un peu avarié, cependant, » fit M. Claude.
« Pas tant que cela. Voyez. »
Le vieux marchand indiquait du doigt une ligne à peine visible.
« Ceci, c'est la première barre de l'M. La seconde est illisible, mais ce triangle qui part du haut, c'est le sommet du A. » Et puis, au-dessus se trouvait la couronne et qui a été enlevée à la Révolution. Remarquez que les traces d'un grattoir sont encore visibles. C'est incontestablement le monogramme de la reine Marie-Antoinette. Il n'est pas même besoin, pour en être certain, du témoignage de la personne dont je le tiens et qui ne s'en est dessaisi que poussé par la misère. Ah, pour l'avoir remarqué, là, d'emblée, en passant, il faut être un connaisseur de première force. Je l'ai dit tout de suite.
Jamais jusqu'alors les antiquités n'avaient excité l'intérêt de M. Claude. Il ignorait le charme du rococo, des meubles de vieux chêne et des vitraux gothiques, mais ce moment fit date dans sa vie. Quand il rentra chez lui, il y rapportait l'éventail ébréché, payé fort cher, point trop cher cependant si l'on songe à toutes les joies intimes dont il inaugurait l'ère. Désormais, il était collectionneur et n'eut plus qu'un rêve, celui de faire de sa demeure, si vaste et si vide, mais si bien appropriée à la chose, un musée rempli d'objets rares et précieux. Meubles, tentures, bijoux et tableaux, faïences, émaux et vieux livres, tout y fut admis, une seule condition était requise, il fallait appartenir au passé. Un chef-d'œuvre signé du nom d'un artiste vivant n'eût pas trouvé grâce à ses yeux, mais en revanche, il se fut ruiné pour un Ruisdael, un Claude Lorrain ou un Holbein grand comme la main. Ce qui le charmait par-dessus tout, c'était de retracer l'histoire de ses témoins d'un âge disparu. Il aimait à remonter le cours des années et à faire revivre l'image de ceux qui contemplaient ses meubles et ses bibelots alors que le temps ne les avait point encore recouverts de son imperceptible poussière et que la lumière du jour, faisant lentement son œuvre, n'en avait pas fané les couleurs. Dans un bahut d'ébène incrusté d'ivoire, il déposait les pièces historiques, celles que, parmi tous ses trésors, il estimait au prix le plus élevé. Longtemps, l'éventail de Marie-Antoinette y figura seul, car il fallait à M. Claude des preuves irrécusables pour qu'il se décidât à décerner à un objet quelconque l'honneur de siéger dans le meuble d'ébène. Ces preuves, il ne les demandait qu'à lui seul, à son jugement, et surtout à une sorte d'intuition qu'il se flattait de posséder à un haut degré. À l'aide de volumes traitant de questions d'histoire, d'art ou d'archéologie, il s'était fait un système à lui, et ce système, une fois dûment échafaudé, il se persuada que ses théories et le flair reconnu par le vieux juif empêcheraient qu'il fût jamais trompé. Tous les marchands d'antiquités, vrais ou fausses, de France et des pays voisins, surent bientôt l'adresse de M. Claude. On lui écrivait pour lui offrir des objets fabuleux, et on venait le voir de loin. On assiégeait sa porte, on étalait devant lui le contenu fantastique de coffres énormes. Il se méfiait de tout ce zèle, en raison même de son intensité, et se riait des naïfs qui pensaient pouvoir escompter sa crédulité. Il fit des voyages, fouillant lui-même maisons de paysans, demeures seigneuriales, de familles ruinées, sacristies d'églises et de couvents. Il sut se faire un visage impassible, ne pas paraître se soucier des choses qui le tentaient, et grâce à sa diplomatie, il réussit à enlever, à des prix qu'il jugeait minimes, des objets qui à ses yeux valaient leur pesant d'or. C'est ainsi qu'il enrichit le bahut d'ébène de deux reliques que lui eussent enviées les principaux musées de l'Europe. Un missel enluminé, découvert à Aigues-Mortes et provenant certainement du roi Saint-Louis, et une coupe en métal repoussé, autrefois dorée, achetée chez un pêcheur des îles Shetland. Cette coupe, apportée par la vague avec un tas d'algues marines, ne pouvait être, selon la conviction bien arrêtée de M. Claude, que la coupe du roi de Tulé. Le cœur de M. Claude se gonflait d'orgueil quand, ouvrant son reliquaire d'ébène, comme volontiers il l'eût appelé, il se plongeait dans la contemplation de ces deux merveilles qui s'étalaient sur un coussin en velours rouge, tout près de l'éventail de Marie-Antoinette. L'éventail ranimait ses opinions royalistes, jadis aussi lentes. Le missel lui inspirait des accès de dévotion. La coupe lui donnait la nostalgie de ces temps héroïques dans lesquels l'amour et la fidélité n'étaient point de vains mots. Nous l'avons dit, M. Claude vieillissait, mais si doucement, si heureusement, d'une manière si agréable, qu'il oubliait de s'en apercevoir. La parfaite quiétude de son existence n'eût probablement jamais été troublée s'il ne se fût trouvé tout à coup en présence d'un chef-d'œuvre dont il ne pouvait parvenir à s'assurer la possession. Il aimait à explorer les faubourgs et les environs de la ville qu'il habitait, jamais plus heureux que lorsqu'il faisait la trouvaille dans quelque pauvre demeure, d'un escabeau branlant à dossier sculpté, d'une assiette de Niort ou de Chantilly, ayant échappé jusque-là aux recherches des marchands d'anticailles. Comme il lui fallait bien un prétexte pour s'introduire dans ces intérieurs inconnus, il prenait celui de la charité. Tout en inspectant de l'œil exercé d'un commissaire-priseur le pauvre mobilier d'un ouvrier ou d'un paysan, il questionnait la femme sur les gains de son mari, la santé des enfants et ses propres soucis, et si, le plus souvent, il revenait bredouille de ses chasses d'un nouveau genre, il laissait invariablement quelque argent derrière lui. Ce fut dans une de ses visites qu'une femme à laquelle il achetait un bout de dentelle merveilleusement jaune lui parla d'une demoiselle chez laquelle elle faisait parfois des nettoyages et qui possédait une belle pendule. Oh, si belle, rouge avec de l'or et vieille, très vieille. Muni de l'adresse de cette belle pendule, M. Claude s'en fut la voir sur l'heure. La maison qu'habitait Mademoiselle Landel était située près des portes de la ville, au fond d'un petit jardin bien raide et régulier, dont les plates-bandes et les quinconces bordées de buis foisonnaient de violettes et de narcisses autour desquelles butinaient des abeilles. M. Claude suivit l'étroite allée sablée conduisant à la porte d'entrée et tira résolument la sonnette dont la poignée reluisait comme de l'or. Au bout d'un moment, il vit paraître une très petite personne, vêtue avec une simplicité toute monastique, d'une robe brune sur laquelle s'étalait un tablier blanc à bavette. Un petit bonnet de mousseline encadrait son visage encore frais, où brillaient des yeux bruns singulièrement clairs et doux. « Mademoiselle Landel est-elle chez elle ?» demanda M. Claude. « Je suis Mademoiselle Landel, monsieur, » répondit la personne au tablier blanc qui semblait ne pas comprendre ce qui lui valait cette visite inattendue. M. Claude hésita un instant, ne sachant comment entrer en matière, puis il se dit que le mieux serait d'aborder la question d'emblée. « Le fait est, mademoiselle, que je suis grand amateur de vieillerie. On m'a parlé d'une pendule que vous possédez, et je vous serais infiniment obligé si vous me permettiez de la voir. »« Mais certainement, monsieur. Seulement j'ignore qui peut vous avoir dit tant de bien de ma pendule. On l'a probablement surfaite, comme vous allez vous en convaincre vous-même. » Et tout en parlant, elle le conduisait le long d'un petit corridor si propre qu'il pensa au nettoyage dont lui avait parlé l'admiratrice de la pendule. Évidemment, il devait être fréquent. Elle ouvrit une porte, puis comme il s'inclinait devant elle, refusant de passer le premier, elle entra dans une pièce de modeste apparence, tout imprégnée d'une forte odeur de lavande, où régnait le même ordre minutieux que respirait toute sa personne. Le plancher, sans tapis, resplendissait de propreté. Les meubles étaient tous vieux, mais hélas, ils dataient de la plus mauvaise époque, affectant les formes disgracieuses de l'Empire. Les chaises à dossiers ornés de lyre, le canapé et les fauteuils recouverts d'une étoffe en crin noir, raide et luisante, n'excitèrent pas la convoitise de M. Claude. Les innombrables petits tapis au crochet, reproduisant invariablement le même dessin et s'étalant partout où il avait été possible de leur faire une place, le laissaient également indifférent. Par contre, la pendule était fort belle. Elle ornait une étroite console, séparant deux fenêtres garnies de rideaux blancs. Elle semblait déplacée dans ce petit milieu si bourgeois, avec ses appliques de cuivre du meilleur style. Il valait la peine de s'être dérangé pour venir la voir. M. Claude l'examina en tous sens. Après quoi, il demanda à Mademoiselle Landel si elle tenait à la conserver ou si elle consentirait à la lui céder. « Je l'ai toujours vue chez mes parents, monsieur. Il m'en coûterait de me défaire d'elle. Toutefois... » Elle hésita, ne voulant pas lui avouer qu'une somme d'argent qui augmenterait tant soit peu son budget étriqué ne lui paraîtrait point une chose à dédaigner. « Réfléchissez, réfléchissez, je vous prie, mademoiselle, » reprit M. Claude en s'asseyant. « Je ne saurais vous cacher que cette pendule ne serait pas déplacée dans mon musée, mais il n'acheva pas. » Il venait de découvrir dans le fond de la chambre un tableau qu'il n'avait pas remarqué jusqu'alors. Et, se levant précipitamment, il traversa la petite pièce pour le voir de plus près. Ce tableau représentait une ravissante tête de jeune fille. Les boucles folles de ses cheveux poudrés, s'échappant d'une coiffe en mousseline blanche, encadraient un frais visage de l'ovale le plus pur. Elle se présentait de face, légèrement inclinée vers la gauche. La bouche, à demi entr'ouverte, souriait d'un sourire un peu moqueur, que corrigeait le regard doux et caressant de deux grands yeux bruns clairs. Le fichu blanc croisé sur sa poitrine s'échancrait à la naissance du cou pour laisser voir une petite croix d'or suspendue à un ruban bleu. La teinte spéciale de ce portrait, le fondu des tons, la grâce et la poésie que l'artiste y avait répandue à pleines mains en faisaient une œuvre de premier mérite. M. Claude n'hésita pas à l'attribuer à Greuze et un immense désir de la posséder s'empara de lui. « Mademoiselle, » s'écria-t-il, oubliant tout à fait de prendre l'air dégagé avec lequel il entamait en général ses marchés, « il me faut cette toile. Quel prix me faites-vous ? » Debout, à côté de lui, elle regardait aussi la jeune fille au visage souriant. « Elle n'est pas à vendre, monsieur, » répondit-elle d'une voix mal assurée. « Pas à vendre, mais je vous en donnerai tout ce que vous voudrez. Nommez-moi la somme. C'est inutile, elle n'est pas à vendre, répéta-t-elle d'un ton plus ferme. Il comprit que pour le moment, il ne gagnerait rien à insister.
Comme il vous plaira, dit-il avec un geste moitié grondeur, moitié plaisant. Quant à la pendule, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire, je l'achèterai volontiers, pensez-y, et dans quelques jours, je reviendrai savoir votre réponse.
Après un échange de salutations, il partit, laissant à Mademoiselle Landel le soin d'en fixer le prix. Il aurait pu peut-être terminer l'affaire séance tenante, mais il préférait avoir une raison de revoir le portrait dont il ne pouvait détacher sa pensée. Il rentra chez lui de fort méchante humeur et se mit à arpenter d'un air chagrin le salon aux sombres draperies, dans lequel il avait rassemblé quelques toiles dont l'âge était moins contestable que la valeur. Aucune d'entre elles n'aurait pu être comparée à la tête de Greuze. Elle eût brillé d'un vif éclat dans ce milieu évidemment fait pour elle, tandis qu'elle ne servait là-bas qu'à rendre plus apparente la mesquine simplicité de son entourage. Arrêté depuis un moment devant un panneau vide, attendant encore son tableau ancien, M. Claude s'écria tout à coup avec une emphase théâtrale.
« Je jure que je te suspendrai là. Cette vieille folle dut-elle exiger ma fortune en retour ?»
Soulagé et rasséneré par ce serment aussi énergique qu'irrévocable, il dîna de bon cœur et rêva pendant la nuit que la jeune fille lui souriait du milieu du panneau vide.
Il eut grand-peine à laisser passer 3 jours avant de reprendre le chemin de la demeure de Mademoiselle Landel. Quand il arriva enfin à sa porte, il n'eut point osé affirmer que son cœur ne battait pas. Il s'assit dans un des fauteuils disgracieux qui faisait face à la jeune fille aux cheveux poudrés, et tout en parlant pendule, il ne la quittait pas des yeux. « Avez-vous réfléchi, mademoiselle? Avez-vous fait votre prix ?»«
J'ai pensé, monsieur. » Veuillez m'excuser si je me suis trompé, je suis si peu au courant de la valeur de ces sortes de choses. J'ai pensé que, peut-être, 100 francs,
elle s'arrêta et devint toute rouge, comme honteuse d'avoir prononcé ce chiffre extravagant, puis elle reprit en parlant plus vite,
« Si c'est trop, veuillez me dire, monsieur, à quel prix vous l'estimez vous-même ?»
Peut-être qu'en toute autre occasion, M. Claude se serait contenté de payer sans discuter les 100 francs demandés. Peut-être même se fût-il offert l'innocent plaisir de marchander, de déprécier la pendule pour se montrer ensuite bon prince. Mais aujourd'hui, la question se présentait sous un aspect tout différent. Il s'agissait d'éblouir Mademoiselle Landel et de lui prouver qu'il saurait payer le Greuze assez grandement pour qu'elle ne s'obstinât plus à le garder pour elle.
« 100 francs !» s'écria-t-il. « Vous voulez dire 500, chère mademoiselle ?» Ce serait indigne de moi de profiter de ce que vous êtes encore novice dans ce genre de transaction. Cette pendule vaut 500 francs. C'est ce prix que j'aurai l'honneur de vous en donner.
500 francs ? Ne rêvait-elle pas ? Elle vit passer devant ses yeux éblouis de riantes visions. 500 francs ? De quoi acquitter une petite dette dont le souvenir troublait son sommeil ? De quoi remplacer sa robe brune, bien usée déjà, mais qu'elle avait compté faire durer longtemps encore ? De quoi s'en aller en été voir une vieille parente habitant le département voisin, que sais-je encore ? C'était le bien-être, le superflu, le luxe pour bien des mois.
Vraiment, monsieur, balbutia-t-elle, il me semble que ma pendule, elle est si vieille.
Justement, c'est là ce qui en fait le prix, mademoiselle. La vieillesse, mademoiselle, ne déprécie que nous. Elle augmente sans cesse la valeur des meubles, des tableaux, des tentures, des faïences. Et de plus, elle est authentique. Or, dans notre siècle de contrefaçon, l'authenticité ne saurait se payer trop cher. Si vous le voulez bien, demain, à 3 heures, je reviendrai avec l'argent et mon domestique qui transportera la pendule chez moi.
Quand vous voudrez, monsieur.
Il se leva pour prendre congé et, comme par hasard, passa en sortant devant le portrait de Greuze.
Ah! « Si vous vouliez, dit-il avec un léger haussement d'épaule. Mais évidemment, cela ne concerne que vous. »
elle ne releva pas ses paroles et l'accompagna jusqu'à la porte. « Comme votre jardin est parfumé !» s'écria-t-il. « Je n'ai vu nulle part ce printemps de parterre aussi fleuri, ni pareille profusion de violettes. Ah, voyez-vous, j'adore les violettes !» Elle fit quelques pas le long d'une plate-bande et, se baissant, elle cueillit une poignée de fleurs qu'elle entoura de feuilles de lierre.
« Je ne sais si j'ose vous les offrir, monsieur, » dit-elle, hésitant à les lui tendre.
« Mais comment donc, mademoiselle, je vous suis infiniment obligé de votre attention !» Et, s'inclinant devant elle comme s'il eût été une princesse, au lieu d'une pauvre petite maîtresse d'école en retraite, il fixa le bouquet de violettes à sa boutonnière.
« Ces vieilles filles, se dit-il, c'est ainsi qu'il faut les prendre, par le sentiment. » Ce bouquet de violettes à ma boutonnière l'a impressionné plus que mes 500 francs. Avec un peu de marivaudage et de flatterie, le portrait de Greuze sera à moi. »
Il se trompait cependant, en attachant tant d'importance au bouquet qui fleurissait le revers de son paletot de fin drap. Rentrée dans la chambre qu'il venait de quitter, mademoiselle Landel ne pensait déjà plus à M. Claude, tandis que la perspective de posséder le lendemain 500 francs faisait couler le long de ses joues des larmes de joie et de reconnaissance qui ne rougissaient pas ses yeux veloutés. Le jour suivant, M. Claude et son domestique arrivèrent à l'heure dite. Le cœur de mademoiselle Landel se serra bien un peu quand elle constata combien la pendule faisait de vide sur la console, mais se souvenant du prix qu'elle allait en retirer, elle étouffa un soupir de regret prêt à lui échapper. Quand le domestique se fut retiré, M. Claude sortit de son portefeuille 5 billets de la Banque de France qu'il posa tout déplié devant mademoiselle Landel, puis, plongeant jusqu'au fond d'une des poches de son paletot, il en retira un paquet blanc entouré d'une faveur rose. « Permettez-moi, mademoiselle, dit-il avec son meilleur sourire, de vous offrir quelques bonbons en échange de vos fraîches violettes de hier qui embaument encore aujourd'hui ma demeure. » Très interdite, mademoiselle Landel balbutia en remerciement. M. Claude, avec ses grandes manières, la gênait considérablement. Elle s'attendait à le voir prendre congé, ne comprenant pas ce qui pouvait l'engager à s'attarder dans son humble demeure, mais lui prolongeait la conversation, parlant du beau temps, du printemps, des fleurs, des oiseaux. Il devenait d'un lyrisme extrême dont il s'étonnait lui-même. Mais il savait se mettre à tous les genres, bien qu'il n'eût réussi à exceller que dans le genre collectionneur. « Vous m'assuriez l'autre jour, mademoiselle, dit-il enfin décidé à frapper un grand coup, que cette peinture, il indiquait de la main le portrait, n'était pas à vendre. Laissez-moi espérer que ce n'était pas votre dernier mot. » Elle hocha la tête.
« Je ne me séparerai jamais de ce portrait, monsieur. »«
Mais c'est folie, c'est tout bonnement absurde. Je vous en donnerai tout ce que vous voudrez. Que vous faut-il? Voyons, 5 000 francs. »
Elle fit un signe de tête négatif. Il s'échauffa.
« 10 000 francs, il me faut ce portrait. Pourquoi vous obstinez à me le refuser ?»«
10 000 francs, monsieur, ce serait pour moi une fortune. C'est beaucoup plus que ne vaut ce portrait. Mais c'est inutile, il n'est pas à vendre. »«
Nous verrons si je ne vous forcerai pas à céder, » s'écria-t-il, perdant toute mesure.
Elle se redressa, forte de son droit.
« Ce portrait m'appartient, monsieur, et si je prétends le conserver, vous m'obligeriez à n'en parlant plus. »
Il comprit qu'il avait été trop loin.
« Veuillez accepter l'expression de mes regrets et pardonner ma vivacité, » dit-il. « C'est vous qui avez raison et moi qui ai tort. Je déplore votre décision, mais je respecte votre liberté. »«
Oh, monsieur, » dit-elle, plus intimidée par ses excuses qu'elle ne l'avait été par sa brusque sortie, « je suis certaine que vous ne pensiez pas à m'offenser. »
« Rien, en effet, ne saurait être plus éloigné de ma pensée. Et maintenant, mademoiselle, je ne me sentirai assuré de votre pardon que si vous daignez me permettre, de temps à autre, rendre mes devoirs à ce chef-d'œuvre et à sa vaillante propriétaire. »
« Ce serait trop d'honneur que vous me feriez, monsieur, mais... »
Il prévit une objection et lui coupa la parole.
« Pas de mais, chère mademoiselle. J'ai votre permission et je ne vous dis pas adieu, mais au revoir. »
Ils se séparèrent là-dessus le plus courtoisement du monde. Dès que M. Claude fut parti, mademoiselle Landel courut serrer dans le tiroir le plus sûr de son bureau les billets de banque de France. Puis, oubliant sur une table la boîte de dragée, entourée de sa faveur rose, elle se tourna vers la jeune fille à la coiffe de dentelle et fixa sur elle des regards attendris.
« Me séparer de toi ? » murmurait-elle. « Oh, non, jamais, jamais !»
Les visites de Monsieur Claude à la maisonnette qu'habitait Mademoiselle Landel devinrent bientôt fréquentes et régulières. Il prit l'habitude de passer deux fois par semaine, une heure dans la pièce parfumée de lavande dont l'ameublement choquait ses goûts artistiques. Il parlait à Mademoiselle Landel, en laquelle il trouvait une auditrice complaisante, de ses voyages, de ses années de carrière littéraire, des déboires de sa vie d'homme politique. Quand elle apprit de sa bouche que ses pieds avaient foulé en tous sens le sol de la Terre Sainte, elle joignit les mains et le regarda avec des yeux pleins d'extase. Ce voyage, qu'elle appelait un pèlerinage, le grandissait singulièrement dans son estime. Il entourait sa tête d'une vague auréole de saints. Elle s'enhardissait jusqu'à lui poser des questions et ne se lassait pas d'entendre décrire les cités où se déroulèrent un jour les grandes scènes dont les récits avaient bercé son enfance. De quel espoir se flattait M. Claude ? Espérait-il que, gagné par son amabilité et ses récits, Mademoiselle Landel lui offrirait le portrait qu'il convoitait ? Il n'y faisait plus allusion, mais il ne le perdait pas de vue pendant ses visites. Alors même qu'il semblait regarder ailleurs, il le voyait toujours. Il s'éprenait, lui qui n'avait jamais aimé personne, non plus seulement de l'œuvre de Greuze, mais du gracieux visage de la jeune fille elle-même. Il s'enivrait de son sourire agaçant. Il se grisait du regard caressant de ses yeux bruns, de ses yeux qui excitaient en lui une irritante curiosité. Où donc les avait-il vus déjà ? Dans un musée ? En rêve ? Il n'en savait rien, mais il y repensait sans cesse, et pourtant, comme rien ne troublait ses heures de contemplation, il oubliait de s'emporter contre Mademoiselle Landel. Il oubliait même et son panneau vide et son serment, quand une lettre qu'il reçut un soir l'arracha à son calme bien-être. Son premier sentiment, quand il vit la signature, fut tout de triomphe. Évidemment, il touchait au but désiré. Mademoiselle Landel venait lui rappeler son offre, 10 000 francs pour son tableau. Mais non, elle n'en faisait pas même mention. Elle l'avertissait qu'elle allait s'absenter pour quelque temps, et puis il dut relire plusieurs fois pour comprendre. Après bien des détours et en s'efforçant de ne pas le blesser, elle le priait de cesser à l'avenir ses visites chez elle. Le monde était méchant. Elle n'aurait pas cru qu'à son âge et à celui de M. Claude, on fût encore exposé au commérage. Mais on avait causé en le voyant traverser si fréquemment le petit jardin. Il ne voudrait pas, certainement, l'exposer plus longtemps aux propos malveillants de ses voisines. Furieux, il froissa la lettre entre ses doigts et s'en fut tout droit mettre à la raison cette folle de vieille fille qui s'imaginait on ne sait quelle sotte histoire. Mais porte, volet, la grille elle-même, tout était fermé. Des semaines s'écoulèrent sans que la maisonnette se rouvrît. Ce que M. Claude éprouva d'ennui ne saurait se raconter ici. Le missel de Saint-Louis, la coupe du roi de Tulé elle-même, ne le consolait point. Le panneau vide lui rappelait sans cesse son serment. Il jura encore une fois d'y suspendre le portrait de Greuze, coûte que coûte, dut-il même l'enlever de force à sa propriétaire. Ses promenades, promenades tardives, grâce à la lourde chaleur des journées d'août, le faisaient invariablement passer au départ ou au retour par le faubourg qu'habitait Mademoiselle Landel. Le soir où il revit enfin un filet de lumière derrière les persiennes à demi fermées, il eut grand-peine à réprimer une exclamation de joie. Il saurait parler, l'heure était venue où la jeune fille ornerait le panneau qu'il attendait depuis si longtemps. Il traversa le jardin d'un pas ferme. Son coup de sonnette retentit au loin dans le quartier. Mademoiselle Landel ouvrit la porte elle-même. La brise du soir faisait vaciller la flamme de la bougie qu'elle tenait à la main. Un papillon de nuit vint la frôler de son aile. Elle changea de couleur en reconnaissant M. Claude et, loin de l'inviter à entrer, elle cherchait des paroles qu'elle ne trouvait pas. « Me laisserez-vous sur votre seuil ?» lui demanda-t-il d'un ton plaisant. Elle le regarda d'un air suppliant. « Je vous en prie, monsieur, ne me forcez pas à être impoli !» Il sourit. « Je pense, dit-il, que je puis considérer ceci comme un congé en bonne forme. Mais si je m'éloigne ce soir, me permettrez-vous de revenir demain matin ? Il faut que je vous voie. J'ai quelque chose d'important à vous dire. »« Dans ce cas, monsieur, je vous attendrai demain. » Et prise d'un subit accès d'énergie, elle ferma la porte au nez de M. Claude avec tant de force qu'elle-même en resta toute tremblante.
Ainsi congédié, M. Claude rentra chez lui, maudissant la pruderie de Mlle Landel, doublement absurde à son âge, et se demandant ce qu'il aurait après tout de si important à lui dire le lendemain. Quels arguments emploierait-il pour la décider à lui céder le trésor auquel ils tenaient tous deux si obstinément ? Le plus simple eût été de s'armer d'un revolver et de se précipiter chez elle en criant « Le Greuze ou la vie !» Mais si grande est la perversité des femmes qu'elle eût été capable de répondre « La vie !» pour le seul plaisir de l'envoyer sur le banc des accusés. Comme ce banc ne le tentait nullement, quoiqu'étant d'invention fort ancienne, il se décida pour les moyens doux et se présenta le lendemain chez Mademoiselle Landel, armée de sa seule éloquence. Mais cette éloquence, une fois leur venue, manquait de déploiement. Il hésitait, pataugeait. Mademoiselle Landel cherchait à comprendre où il en voulait venir, et vraiment lui-même n'aurait guère su le dire. Du milieu de son cadre, la rieuse figure semblait le narguer et lui dire « Ah, si tu voulais !» « Est-il bien vrai, mademoiselle, dit-il enfin, que vous ayez l'intention de m'interdire l'accès de votre hospitalière demeure, de me bannir de votre présence ? Laissez-moi espérer que votre arrêt n'est pas irrévocable. Qu'ai-je fait pour mériter une semblable sentence ?»« Rien, monsieur, absolument rien. Croyez qu'il m'en coûte de renoncer à vos visites. Ma vie est monotone, vous y faisiez vainement, mais... je ne puis supporter le moindre soupçon de sourire sur le visage de mes voisines. Jusqu'ici, j'ai été à l'abri de leur langue. Ce ne serait pas se montrer mon ami que de m'exposer à la possibilité d'entendre des propos moqueurs. »
Oh ! Monsieur Claude s'arrêta. Il allait envoyer au diable les propos moqueurs, les soupçons de sourire, la délicatesse d'Hermine de Mademoiselle Landel, et il se rappelait à temps qu'il l'eût immanquablement terrifié par d'aussi irrévérencieuses paroles. Il resta un moment silencieux. Tout à coup, une idée lumineuse s'empara de lui avec la force irrésistible d'une inspiration et le fit bondir hors de son fauteuil.
« Chère mademoiselle, s'écria-t-il, puisque vous me fermez votre maison, venez habiter de la mienne. Elle est trop grande, trop vide, trop solitaire pour moi. Je ne saurais me passer de votre société. Prenez vos meubles, prenez tout ce qui vous appartient et venez. »
Il lui tendait les mains tout en parlant, comme prêt à l'emmener avec tout son mobilier. Elle le regardait d'un air consterné, se demandant s'il perdait la raison.
« Vous ne répondez pas, continua-t-il. Pourtant, il faudra bien que vous veniez. Je vous l'ai dit, je ne saurais me passer de vous. Je vous en conjure, ne me refusez pas. »
Il s'échauffait en plaidant sa cause. Il avait mis moins d'instance à discuter avec le vieux prêtre, qui hésitait à lui céder le missel de Saint-Louis, mais aussi il s'agissait aujourd'hui de son serment.
« Mais c'est que vraiment, cela ne se peut pas, » dit-elle d'une voix effarée. « Songez-y, monsieur, c'est alors que... »« comme ma femme !» s'écria-t-il. « Avez-vous pu croire un seul instant que je vous engagerais à venir vous fixer sous mon toit si mon intention n'était pas de vous donner premièrement mon nom ?»
Elle tressaillit.
« Moi ? Moi ? » balbutia-t-elle, puis plus haut. « Vous n'y pensez pas ! Qui suis-je pour que vous songiez à m'épouser ? Une simple maîtresse d'école ? Pauvre, vieille, fanée ?»
Il interrompit galamment.
« Pas si vieille, chère mademoiselle, et pas fanée du tout !»
Elle ne parut pas prendre garde à cette interruption et continua s'animant à mesure qu'elle parlait.
« Non, non, monsieur, cela ne se peut pas ! Vous êtes noble, riche, haut placé, ce serait une mésalliance indigne de vous. »
Il se dit vaguement qu'elle avait raison. À ce mot de mésalliance, son orgueil se révolta. Mais la passion du collectionneur, reprenant le dessus, il se redressa fièrement. « La femme que j'épouserai prendra mon nom, dit-il avec emphase. Elle entrera dans ma vie. Je n'entrerai pas dans la sienne et nul n'osera lui reprocher son obscur naissant. » Il vit qu'elle ne faiblissait pas et qu'il fallait faire vibrer d'autres cordes.
« Chère mademoiselle, ici il se rassit, nous sommes deux isolés. Pourquoi ne pas réunir nos solitudes ? Depuis la mort de ma mère, aucune femme ne s'est inquiétée de moi. Si je tombais malade, je devrais avoir recours à des soins salariés. Il me serait doux de penser que vous seriez là pour me fermer les yeux. Chère mademoiselle, vous allez dire oui, ne secouez pas ainsi la tête. » Je vois des larmes briller dans vos yeux. Vous êtes femme, c'est-à-dire la bonté et la charité même. Pensez à moi, vieux, seul, souffrant, mourant peut-être.
à cette idée qu'un jour peut-être il mourrait, en effet, il se prit à pleurer aussi. Il croyait que c'était arrivé et s'attendrissait de bonne foi. Elle étendit une main vers lui avec un geste adorablement gauche, en disant d'une voix toute voilée
« Non, non, vous ne serez pas seul à souffrir. Je serai là, je veillerai sur vous. Nous vieillirons ensemble, puisque vous le voulez, et... »
Elle n'acheva pas. Il se précipita vers elle, mit un genou en terre, et son visage radieux et triomphant tournait vers le portrait de Greuze qu'il venait de conquérir enfin.
« Ah ! S'écria-t-il, vous êtes un ange !»
Les derniers jours de septembre furent témoins de l'installation du petit mobilier du faubourg dans la maison aux larges escaliers bordés de rampes en fer forgé. Ces vestibules lambrissés de chêne virent passer avec dédain les meubles raides et mesquins qui disparurent dans une chambre inoccupée où ils s'entassèrent bien loin de l'œil du maître. Le portrait de Greuze fut seul admis à pénétrer dans la pièce que M. Claude habitait, de préférence à toutes les autres. Lui-même tenant son serment à la lettre, le suspendit au panneau vide. Comme il l'espérait, il brilla d'un éclat tout nouveau dans cet entourage de choix. Il valait son prix. Monsieur et Madame Claude venaient de prendre leur premier repas en tête à tête dans la vaste salle à manger qui, depuis longtemps, regrettait l'absence d'une maîtresse de maison. La conversation languissait entre eux. Peu habitués encore à leur nouvelle situation, ils ne retrouvaient pas le secret des causeries dont auraient pu témoigner les chaises de l'Empire. Le repas terminé, M. Claude se leva et offrit avec une politesse cérémonieuse le bras à sa femme et passa avec elle dans le salon où flambait un grand feu que les dimensions de la pièce ne rendaient pas inutile. Ils s'assirent des deux côtés de la cheminée dans des fauteuils si hauts et si profonds que la personne toute menue de Mme Claude y paraissait comme perdue. Ils restèrent un moment silencieux, elle regardant la flamme, en se disant que jamais, par le froid le plus intense, elle n'eût osé se permettre pareil gaspillage de bûches, lui les yeux fixés sur le tableau si singulièrement acquis. Elle leva la tête et, suivant d'un air interrogateur le regard ardent de son mari, elle rougit et toussa légèrement pour attirer son attention.
« Vous êtes enrhumée, ma chère ?»
Moi, oh, non, seulement je pensais, j'aurais dû peut-être vous raconter l'histoire de ce portrait.
Son histoire? Ah, certainement. Je me suis demandé déjà par quel enchaînement de circonstances il était tombé entre vos mains. Je vous écoute, ma chère.
Elle se retira tout au fond du fauteuil, de manière à ce que sa figure se trouvât un peu dans l'ombre, joignit les mains et parut se recueillir un moment.
Mon père était professeur au lycée d'Amiens. Ma mère mourut peu après ma naissance, mais la tendresse et la sollicitude de mon père empêchèrent que je souffrisse de cette perte, comme aurait pu le faire une autre jeune fille. Il fut tout à la fois pour moi, un père, une mère, un ami, un maître. Lui seul qui m'instruisit me mit à même de remplir, lorsque je fus laissé seul, les fonctions de maîtresse d'école, ici même. Nous vivions très isolés, mon père et moi. Nous suffisons l'un à l'autre. Je n'avais pas d'amis, mais je n'en éprouvais en aucune façon le besoin. Mon père et mes études remplissaient ma vie, n'y laissant pas de place pour l'ennui. J'avais 15 ans, quand un ancien élève du lycée, orphelin sans fortune, vint prier mon père de consentir à lui donner parfois, le soir, quelques leçons. Il était entré à sa sortie du lycée dans l'atelier d'un peintre d'Amiens, chez lequel il s'exerçait dans l'art vers lequel le poussaient tous ses goûts. Mais il éprouvait le besoin de continuer à développer son intelligence en attendant le moment où quelque heureuse aubaine lui permettrait d'aller poursuivre ses études de peinture à Paris. Mon père consentit volontiers à ce qu'il lui demandait. Henri Dubois ne tarda pas à devenir le fidèle compagnon de toutes nos soirées. L'heure de leçon proprement dite terminée, il restait auprès de nous et nous causions, ou pour mieux dire, lui et moi, nous écoutions causer mon père et nous étions heureux, bien heureux.
Elle s'arrêta comme pour reprendre haleine et regarda M. Claude.
il lui fit un signe qui pouvait dire tout aussi bien « J'écoute » que « Cela m'est fort égal ».
Elle soupira et reprit la suite de son récit. Cela dura 2 ans. Au bout de ce temps, Henri nous quitta. Le peintre chez lequel il travaillait fondait les plus grandes espérances sur ses talents. Il lui fournissait les fonds nécessaires à ce voyage à Paris si longtemps désiré. Les soirées nous parurent longues sans lui. Il nous manquait, à mon père et à moi surtout. Cependant, ses lettres nous dédommageaient de son absence. Elles étaient si longues et si fréquentes que nous pouvions, pour ainsi dire, continuer à vivre avec lui. Nous le suivions pas à pas, pleurant au récit de ses privations, nous réjouissant à celui de ses succès. Il réussissait particulièrement bien, nous disait-il, à rendre les toiles de Greuze pour lesquelles il éprouvait un grand enthousiasme.
Ici, M. Claude fit un mouvement si brusque qu'elle s'arrêta court.
« Continuez ? » dit-il sèchement.
« Il y avait 3 ans qu'Henri était parti, » reprit-elle, après un moment d'hésitation, « quand il nous écrivit qu'il se sentait malade. Il avait pris froid, il toussait. Sa lettre respirait une telle nostalgie, une telle tristesse que mon père l'invita à venir se remettre chez nous, persuadé que le printemps, l'air natal et nos soins auraient bientôt raison de la maladie. Peu après, il nous arriva, si pâle, si changé, si défait que nous en fûmes effrayés, mon père et moi. Mais comme nous l'avions espéré, l'air natal sembla au premier abord lui rendre la vie et la santé. Il reprenait sa gaieté, son goût au travail. Un soir que nous étions assis ensemble, à la fenêtre ouverte, regardant le soleil prêt à disparaître, il me dit tout à coup « Vous avez une de ces figures que Greuze aimait, Marie. Quel dommage qu'il n'ait pu faire votre portrait !» Et je me mis à rire, lui faisant observer que si Greuze eût fait mon portrait, je n'aurais pas été assise à côté de lui ce soir-là. Il n'y fit pas attention et, me regardant toujours, « La poudre siérait si bien à vos cheveux bruns, » continua-t-il, « et j'ai copié tant de ses peintures que je saurais, je crois, rendre sa manière. Laissez-moi essayer, Marie. »
Monsieur Claude avait compris. Il se leva si droit qu'il paraissait encore plus grand que de coutume et, le bras étendu vers le portrait, pour l'amour duquel il s'était marié, il s'écria « C'est vous ?»«
Oui. » murmura-t-elle d'un air effrayé.
« Vous m'avez trompé. Vous avez compris mon erreur. Vous en avez profité. Et moi, j'ai donné dans le piège. Vous avez réussi à vous faire épouser. Vous devez être satisfaite. » Et M. Claude se mit à rire d'un rire méprisant.
« Moi ? Moi ? Vous trompez ? Moi, avoir cherché à me faire épouser ? Quand c'est vous qui avez insisté, vous qui... »
Incapable de continuer à parler, Mademoiselle Claude fondit en larmes. Monsieur Claude devint pâle de colère. Comment, chez lui, dans sa propre demeure, on se permettait de le contredire? Mieux que cela, on se mettait à pleurer quand on devait savoir qu'il détestait les larmes. Il voulut crier « Sortez !» mais ses lèvres crispées ne purent articuler ce mot. Alors il se dit qu'on ne met point ainsi sa femme à la porte de chez soi, et, faisant volte-face, ce fut lui qui sortit.
Restée seule, la pauvre femme eut un accès de désespoir. Qu'avait-elle dit ? Qu'avait-elle fait pour mériter d'être traitée de la sorte ? Pourquoi cet emportement ? Parce qu'elle attachait tant de prix au souvenir de l'ami qu'elle avait perdu ? Ne disait-il pas qu'elle l'avait trompée, qu'elle avait réussi à se faire épouser ? Ces affreuses paroles, dont elle sentait profondément la cruelle injustice, ne cessaient de retentir à ses oreilles. Elle aurait voulu s'en aller, mais où ? Mais comment ? Elle ne savait pas encore s'orienter dans cette maison. La sonorité de ces grands corridors la remplissait d'effroi. Elle se sentait dépaysée dans ce milieu si nouveau pour elle, celui dont le devoir eût été de lui apprendre à s'y croire chez elle, l'abandonner. Que manquait-il à son malheur ? Morne, désolée, n'osant remuer de peur d'attirer l'attention de l'un de ses domestiques que la livrée faisait paraître si imposant, elle regardait d'un air vague le feu qui se mourait. Monsieur Claude, pendant ce temps, arpentait d'un pas fiévreux la terrasse dallée qui s'étendait le long de la façade principale de sa demeure. Si la pauvre affligée, pelotonnée auprès de la cheminée du salon, n'eût été trop absorbée par sa douloureuse stupéfaction pour prendre garde au bruit du dehors, elle eût pu entendre celui de ses pas.
sans chapeau, sans paletot, indifférent au rhumatisme qui le guettait dans l'ombre, l'époux courroucé exprimait par ses gestes violents l'indignation qui remplissait son cœur. Trompé, bafoué, joué, lui que les juifs les plus rusés ne réussissaient pas à circonvenir, pris au piège par cette sainte Nitouche, à l'air innocent, juste ciel, il était marié. Il était descendu jusqu'à épouser cette petite bourgeoise, lui, Claude de Montémar, et c'était irrévocable, irrévocable comme la mort. À cette pensée, il poussa un second gémissement et se demanda avec angoisse ce qu'il pourrait faire pour échapper à la présence insupportable de cette étrangère qu'il venait si follement d'installer chez lui. Partir sur l'heure sans la revoir. Ah, mais partir, c'était abandonner ses trésors, les abandonner à son profit, à elle. Le cœur lui manqua à l'idée de laisser derrière lui tant d'objets patiemment rassemblés, et le missel du roi Saint-Louis, et la coupe du roi de Tulé, comment s'en séparer? Il repassa mentalement le catalogue de sa collection, et malgré lui, le portrait, ce portrait, cause de son malheur, s'obstinait à y prendre place. Au moins, se disait-il, si elle avait encore ce frais visage d'autrefois, je me consolerais, car je crois en avoir été presque amoureux. Mais vieille, fanée et furieux, il s'emporta de nouveau contre sa destinée. Peu à peu, cependant, il se rendit compte de la température qui fraîchissait sensiblement. Il était transi. Cette découverte, jointe à la crainte des rhumatismes, le calma subitement. Il se dirigea vers la maison et involontairement s'arrêta en passant devant la grande porte vitrée qui donnait dans le salon si brusquement quittée une heure auparavant. Les rideaux relevés permettaient de voir clairement ce qui se passait à l'intérieur. Toujours enfoncée dans son fauteuil à côté du feu éteint, Madame Claude présentait l'image parfaite de la désolation. Cela causa une joie parfaite à Monsieur Claude. Ce sentiment peu chrétien fut de courte durée et fit place presque instantanément par un de ces brusques retours propres au cœur humain à une sorte de pitié. La lumière de la lampe éclairait en plein le portrait. Les yeux de M. Claude allaient du visage peint au visage vivant. Les années avaient laissé des traces visibles sur le second. Néanmoins, on ne pouvait nier qu'il ne fût agréable encore. Les yeux étaient restés les mêmes. Il le voyait maintenant et comprenait cette impression de déjà-vu qu'il avait si souvent intrigué. Le froid se faisait sentir plus vif. Une vision passa comme un éclair devant ses yeux. Il se vit vieux, malade, souffrant. Il serait bon d'être soigné par cette douce figure de femme. Sans plus de réflexion, il ouvrit la porte et entra. Madame Claude tressaillit, serra ses mains plus étroitement l'une contre l'autre et leva sur lui un regard de biche aux abois. Il alla tout droit à elle. « Je me suis indignement conduit envers vous, » dit-il en se penchant vers elle. « Me le pardonnerez-vous, ma femme ?» Il savait, malgré ses cheveux blancs, être encore, quand il le voulait, parfaitement séduisant. Il savait donner à sa voix des vibrations irrésistibles. L'accent avec lequel il prononça ces deux mots, « ma femme », produit l'effet qu'il attendait. Elle se leva et le regarda, luttant contre les larmes et souriant pourtant. Il prit une de ses mains, la porta à ses lèvres et s'écria « Ah ! Le cœur ne vieillit pas. Nous pourrons encore être heureux ensemble, nous deux. »